On passe maintenant, on revient peut-être un petit peu plus sur l'introduction du professeur Tremblay avec le petit livre d'éthique qui parlait, on ne parlait pas uniquement de traduction, mais de comprendre des mentalités, des cultures différentes, ce qui a son importance. Et la présentation de Madame Georgetta Christian sur le développement durable, langue plurielle de la diplomatie, va nous en reparler.
Merci beaucoup. Permettez-moi d'abord de vous remercier et de remercier notamment les organisateurs de cet événement et de remercier également les membres du comité scientifique qui a retenu ma proposition de communication. Je suis très heureuse de vous présenter aujourd'hui un projet sur lequel j'ai travaillé il y a 4 ans. Dans le cadre de mon travail habituel au département d'espace cours de langue de l'Institut français de Bucarest, où j'interviens également ponctuellement de temps en temps sur des traductions. Généralement, je suis chargée de faire des traductions, on va dire, de documents ou de textes qui relèvent du domaine de l'action culturelle. Mais là, c'était un cas particulier et c'est pourquoi j'ai pris beaucoup de plaisir en fait, à faire cette traduction. Il s'agissait en fait d'un glossaire dont les entrées étaient en 3 langues, français, anglais et espagnol, et les définitions des termes en français seulement. J'étais chargée de faire cette traduction dans le cadre d'un autre événement international extrêmement important pour la France, mais pour le monde également. En 2015, je ne fais que rappeler, en décembre 2015, à Paris, il y a eu la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Et donc, dans la perspective de cet événement, la Roumanie, comme certainement d'autres pays européens et d'ailleurs, ont dû préparer, sur le plan terminologique aussi, les fonctionnaires roumains, et notamment diplomatiques, enfin les diplomates, pardon, qui devaient avoir des interventions ou des négociations avec leurs hommes français ou francophones. Donc, dans ce cadre-là, fin 2014, j'ai reçu un email de ma coordonnatrice pédagogique, à l'époque Mariana Lupu, qui me demandait si je pouvais faire une traduction de ce glossaire qui comprenait une 30aine de pages, dont le texte était en fait sur 2 colonnes, dans un délai de temps assez contraignant, c'est-à-dire 3 semaines. S'agissant d'une terminologie précise, d'un côté c'était le domaine diplomatie, donc, de l'autre d'une terminologie spécifique au développement durable, j'ai mis une bonne semaine à faire des lectures documentaires pour effectivement m'approprier un certain vocabulaire spécifique à ces deux domaines et pour ensuite pouvoir mieux comprendre le texte que j'avais à traduire. Alors, les éléments que l'on évoque souvent quand on enseigne la traduction, et cela a été également mon cas pendant 8 ans à l'Université de Bucarest au département des Français, les éléments sur lesquels on insiste beaucoup, c'est la bonne maîtrise des langues de travail. On insiste beaucoup sur ces choses et c'est à juste titre, dans un monde où, bon, c'est vrai qu'on apprend de plus en plus de langues, c'est très bien, mais en même temps, la maîtrise de chacune de ces langues baisse. Et donc, il faut dire que dans le monde de la traduction professionnelle, il y a d'autres éléments qui interviennent et qui ont une forte influence sur la qualité de la traduction, donc sur le résultat final. Et donc, c'est sur les 3 premiers points de cette diapositive, j'aimerais retenir et insister un petit peu plus sur le contexte professionnel. C'est celui, je pense, qui fait la grande différence entre une approche strictement linguistique de la traduction et une approche professionnelle de la traduction. Alors, généralement, quand on reçoit une commande de traduction, dans le monde professionnel, on est amené à faire une analyse de cette commande. Et donc là, souvent, vous voyez, le traducteur est en 3e position, en fait, parce qu'en réalité, il rentre rarement en contact avec l'auteur du texte source. Dans mon cas précis ici, il s'agissait du ministère des Affaires étrangères et du développement international de France. Je savais simplement, après avoir lu le texte, enfin une note, un protocole qui était mis en, sur la première page du glossaire, où j'avais compris que c'était un glossaire réalisé au sein du département des traductions et des terminologies de ce ministère, mais je n'ai pas eu de contact direct avec les auteurs, les rédacteurs, les traducteurs de ce glossaire en français. En revanche, je suis entrée en contact direct, et cela à plusieurs reprises, avec le commanditaire ou le donneur d'ouvrage, en l'occurrence l'Institut français de Bucarest. Et parce que l'Institut, c'est une institution, comme ce nom l'indique, évidemment, là aussi, on a des interlocuteurs privilégiés. La personne qui, dans la hiérarchie institutionnelle, m'a contactée, avec laquelle j'ai eu par la suite une série d'échanges par mail, a été d'abord Marianne Aloubou, que j'évoquais tout à l'heure, la coordonnatrice pédagogique, qui gérait aussi ses traductions. Au niveau immédiatement supérieur, Madame Françoise Rousseau, qui à l'époque était l'attachée de coopération pour le français, la directrice des cours, qui elle-même avait reçu cette commande de traduction de Monsieur Vincent Beauchéreau, à l'époque chargé de mission pour la coopération scientifique au sein de l'Institut français de Bucarest. Évidemment, en travaillant dans cette institution, j'ai pu contacter directement M. Beauchéreau par la suite et avoir plus de détails sur cette commande de traduction. Qu'est-ce qu'on voulait faire au sein de l'Institut, en fait, avec ce glossaire? On voulait faire un glossaire bilingue, donc retenir et les définitions et les entrées en français et y coller leur version roumaine. Donc cela voulait dire, bon, pour des raisons économiques, pour des raisons d'espace, pour des raisons aussi de public cible, c'est-à-dire de fonctionnaires roumains, des diplomates qui avaient accès direct au français, pas forcément à l'espagnol et pas forcément en anglais. Pour ces raisons, en fait, j'ai essayé de tenir compte d'abord du texte en français, c'était tout à fait normal. Mais j'ai également jeté un coup d'œil et parfois je me suis inspirée de la stratégie que les traducteurs français avaient fait pour faire leur traduction en anglais ou en espagnol pour pouvoir proposer une version roumaine plus appropriée. Je donnerai quelques exemples dans quelques instants. Donc les bénéficiaires du texte cible, c'était en fait des fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères de Roumanie qui ne s'intéressaient pas aux détails linguistiques ou à d'autres aspects vraiment qui intéressent un terminologue ou qui intéressent une personne qui est formée en lettres modernes. La fonction principale du texte, donc, c'était celle de faire comprendre et faire passer rapidement des informations. Éviter donc toutes sortes de répétitions ou de détails inutiles. Par conséquent, je passerai à un exemple, au troisième. Par exemple, pour objectif de développement durable, donc en fait un syntagme très simple qui ne posait pas a priori beaucoup de problèmes pour la traduction en roumain. Ayant sous les yeux, au moment de la traduction, les versions anglaises et espagnoles, j'ai pu en fait constater que les traducteurs anglais et espagnols avaient adapté le sigle de ce syntagme aux spécificités de leur langue culture. Et donc, cela m'a permis par la suite de faire la même chose en roumain. Donc, de objectif de développement durable, je suis passée à objectif de dezvoltare durabile. Ce que j'ai constaté également, c'est que les traducteurs anglais, bon, on s'y attendait, mais aussi espagnols, ont proposé pour chacun des termes faisant partie de ce syntagme des majuscules. En français, l'emploi des majuscules est beaucoup plus restreint, et cela est aussi le cas pour le roumain. Même si c'est vrai que ces dernières années, l'influence de l'anglais est de plus en plus forte et on a tendance même en roumain à utiliser beaucoup de lettres majuscules. J'ai pourtant gardé la spécificité du texte français dans ma version roumaine et j'ai gardé donc les minuscules pour objective, dezvoltare et durabile, donc objectif, développement et durable. Pour ce qui est de la définition de ce terme, Vous verrez là, en fait, certaines parties que j'ai soulignées, tout simplement pour montrer qu'il y a de très légères différences que j'ai proposées pour la traduction roumaine. Il faut savoir que je ne pouvais pas traduire absolument mot à mot. D'ailleurs, une traduction professionnelle ne sera jamais une traduction littérale ou une traduction mot à mot. Il faut saisir d'abord, pour ce type de texte, en tout cas pour la traduction pragmatique, donc pour les traductions non littéraires, il faut tenir compte du sens et faire passer le sens, sans pourtant négliger entièrement la forme. Or, j'aimerais bien vous donner un exemple de stratégie que j'ai employée pour pouvoir soit étoffer le texte, soit au contraire faire une économie de termes, pour des raisons d'espace aussi. Parce que si je traduisais au plus près du texte original, je risquais de ne plus respecter l'espace réparti à la traduction roumaine. Donc il faut avoir toujours à peu près le même nombre de lignes, le même nombre de mots, si possible. Oui, merci. Par exemple, pour le concept né, donc l'explication de ces objectifs de développement durable, c'est un concept né à la conférence des Nations Unies sur le développement durable de Rio plus 20, qui a eu lieu en 2012. Le but était de produire un ensemble d'objectifs universellement applicables, etc. Alors, en roumain, j'ai étoffé, comme je disais tout à l'heure, un petit peu plus, et j'ai préféré à ce « sur », qui pouvait être rendu aussi pour un terme équivalent, qui voulait dire en français « concernant » ou « relatif à », etc. J'ai préféré l'équivalent « pentru » pour traduction littérale. Et puis, au lieu d'utiliser la préposition « de Rio plus 20 », j'ai préféré mettre entre parenthèses, cela me permettait d'économiser un peu l'espace. Le but était de produire, c'était en fait une répétition par rapport à une affirmation précédente. Et dans ce cas, j'ai préféré remplacer toute cette partie explicative par un seul adverbe en roumain. Ainsi, on a établi un ensemble d'objectifs, etc. Donc le reste est exactement comme en français. Voilà. Et un dernier exemple très vite. L'un des termes pour lesquels je n'ai pas du tout pu proposer en roumain un équivalent qui justifie la répartition de cette entrée à la lettre P, comme c'était le cas en français, mais à la lettre R pour le roumain. Cela n'est arrivé qu'à 3 reprises dans ce glossaire. Généralement, j'ai pu trouver suffisamment d'équivalents roumains qui permettent de garder le terme en question à la lettre de l'alphabet où il avait été indiqué en français. Et donc, ainsi, partage du fardeau, je l'ai traduit en roumain par repartizarea obligațiilor. C'est un petit peu plus explicite en roumain qu'en français. Vous voyez d'ailleurs que les traducteurs anglais et espagnols n'ont pas pu non plus proposer d'équivalent qui commence par la lettre P. Dans la traduction en fait, de la définition, le seul terme sur lequel je voulais attirer votre attention là-dessus, c'est en fait le mot « bulle », qui apparaît en français 3e ligne, mécanisme prévu par le protocole de Kyoto autorisant un groupe d'États à se regrouper au sein d'un collectif, parenthèse « bulle », pour se répartir les efforts de réduction de gaz à effet de serre exigés par le protocole de Kyoto, ainsi que la responsabilité de les respecter. Alors, ce « bulle », évidemment, existe, ce terme « bulle », je veux dire, ça existe en roumain, comme ça existe aussi en français, c'est un emploi économique, bulle spéculative. On peut parler également de bulle dans le domaine religieux. On a des équivalents terminologiques en roumain également, mais là, bulle, c'était un petit peu métaphorique. D'ailleurs, il revient dans la deuxième phrase de la définition, entre guillemets, en français également, ce qui montre que c'était un terme qui relevait de la terminologie professionnelle des diplomates français, et que c'était également une métaphore que l'on avait employée. Alors, en roumain, j'ai préféré choisir une stratégie plus concrète, donc l'explicitation. J'ai tout simplement éliminé, ou plutôt remplacé, bulle, qui est trop vague, qui ne voulait quasiment rien dire pour un diplomate roumain. Je l'ai remplacé par un terme qui avait déjà expliqué et introduit dans la phrase précédente, c'est collective. donc collectif en français. Et je l'ai ainsi repris deux autres fois dans ce texte. Mon objectif, c'était que le texte qui allait être lu par un diplomate roumain soit rapidement compris et utilisé dans l'occurrence la plus appropriée dans son travail. Voilà. Pour ce qui est des conclusions, je dirais simplement que, en plus de cette attention très juste que l'on fait à la maîtrise des langues quand on enseigne la traduction dans nos universités, il est important également de tenir compte du fait que tout acte de traduction ou toute traduction a aussi un objectif professionnel. Et que pour cette raison, une traduction qui sera faite pour le domaine bancaire devra répondre aux attentes d'un professionnel qui travaille dans ce domaine-là. Une traduction qui porte sur le domaine de l'ingénierie devra répondre aux attentes d'un ingénieur, etc. Dans mon cas, il s'agissait du domaine de la diplomatie, donc je devais certainement m'adresser à ce public très, très ciblé. Pour ce qui est de la qualité de la traduction, elle, comme je l'ai montré tout à l'heure, elle est souvent influencée par le temps que l'on a à sa disposition pour faire ces traductions, par les outils dont on dispose, par les documents que l'on consulte pour pouvoir faire dans de bonnes conditions sa traduction, et également par les interlocuteurs que l'on peut avoir durant ce travail. Il y a également des composantes extralinguistiques qui ont une influence ou un impact très important sur la qualité de la traduction. Et je cite également les tarifs, les contacts directs, le réseau que l'on a chacun pour chaque domaine dans lequel on travaille. Ça peut être aussi la personnalité du traducteur comme la personnalité des interlocuteurs, etc. Donc tous ces éléments doivent être pris en compte quand on apprend aux étudiants à faire de bonnes traductions. Voilà, merci beaucoup.
Merci à Madame Christiane pour cet intéressant exposé. Je pense que vous avez apprécié, comme moi, à travers les différents intervenants qu'on a eus, ce lien qu'on a pu faire entre les milieux éducatifs, universitaires, les entreprises, sans oublier tout ce qui est institutions culturelles, et que finalement, en fin de compte, on ne parle pas seulement d'un problème de langue et de plurilinguisme, mais aussi et surtout d'un problème de culture, d'identité, de mentalité. Moi-même, ça fait plus de 20 ans que je suis dans ce pays, ça fait plus de 20 ans que je m'occupe d'implantation d'entreprises étrangères ici, françaises mais pas seulement, et une grande partie de mon travail a été d'expliquer aux uns et aux autres les différences de mentalité qui ne se traduisent pas uniquement par le problème de langue. Là-dessus, en fin de compte, tout ce qui est diversité culturelle devient un facteur de performance pour les entreprises. Et d'enrichissement à titre personnel et de facteurs de performance. Et je terminerai en vous mentionnant que nous sommes en Roumanie et que j'ai toujours eu beaucoup d'envie pour la faculté qu'ont les Roumains à apprendre les langues étrangères, ce qui est peu notre cas pour les francophones, en tout cas pour moi, et que malgré le nombre d'années que j'ai passées dans ce pays, il m'a fallu très très longtemps pour m'exprimer en roumain, pour la simple et bonne raison que tous les gens que je rencontrais me parlaient systématiquement ou en français ou en anglais. Et je dis toujours en rigolant que la seule personne de mon entourage qui ne parle que le roumain est ma belle-mère, mais que c'est elle qui cause.